Bonjour, en ce 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie, la Mère de Jésus. C'est aussi la fête, si on peut dire, d'un laïc qui n'est pas canonisé. Je me demande pourquoi, c'est Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Ceux qui prennent le métro ont dû remarquer dans le métro les belles annonces avec le portrait de Saint-Vincent de Paul. Il y a une campagne pour la Société Saint-Vincent de Paul. Je serai heureux tout à l'heure de vous parler, aussi longuement que possible, de cet homme magnifique, extraordinaire, Frédéric Ozanam, trop peu connu, un laïc, décédé très jeune. Vous voyez, il est né en 1813. Il est mort à 40 ans en 1853. Et c'est aussi la fête de plusieurs jésuites. Je vous les cite, étant donné que j'ai fait mes études chez les jésuites, à Brébeuf, j'ai toujours un faible pour eux. C'est la fête d'un simple frère qui a été béatifié le 6 octobre 1985 à Rome. C'est un Espagnol qui est devenu jésuite en qualité de frère, comme je vous ai dit, pendant 10 ans. Tout simplement, il était infirmier, puis ensuite portier, pendant 41 ans, à l'université de Bilbao. Il demeurait dans une pièce très exiguë, à deux planchers. Il dormait sur un grabat qu'aurait dédaigné bien des clochards. Et alors, toute sa vie, il a manifesté une telle amabilité, une telle serviabilité. Il était toujours prêt à rendre service à tout le monde. Alors, c'est un saint très facilement imitable, une bonne humeur, si vous voulez, charitable, accompagné d'un sourire indéfinissable. Et il avait récolté un surnom auprès des étudiants de l'université de Bilbao en Espagne. Et pour eux, il était frère politesse. Je ne sais comment ça se dit en espagnol, ça doit avoir l'air de quelque chose de préférable. En français, ça fait un peu drôle. Il était tellement exquis dans son langage, ses manières, ses attitudes et tout ça. Il a exercé une profonde influence auprès des étudiants de Bilbao. L'an prochain, je vous parlerai longtemps de quelqu'un qui m'est très cher, c'est un jésuite italien. François-Joseph Bressani, qui a vécu environ 7-8 ans ici. Il est arrivé la première fois ici, en 1642, au moment de la fondation de Montréal. Il est arrivé à Québec. Il s'est beaucoup occupé des Hurons à la mission Huron. Et ce jésuite italien né à Rome a été vraiment un héros, qui me suffise de citer les détails qu'il donne sur son martyr. Il n'est pas mort lors de ce martyr, mais il dit... que l'on avait invité les jeunes Iroquois pour le martyriser. Et ils sont entrés dans une grande cabane où il était, puis il dit, là, on m'enlevait le lambeau de vêtements qu'on m'avait donné. Et dans cet état de nudité, ceux-ci me piquaient avec des bâtons aigus. Ceux-là me brûlaient avec des tisons ardents ou des pierres rougies au feu. Et d'autres se servaient de cendres brûlantes ou de charbons enflammés. Ils me faisaient marcher autour du feu sur la cendre chaude, sur laquelle ils avaient planté en terre des bâtons pointus. Les uns me tiraient les cheveux, les autres la barbe. Monseigneur André Chimiquel a publié une brochure extrêmement intéressante sur ce grand personnage de notre histoire. C'est une brochure d'environ 125 pages que je ne saurais trop vous recommander. C'est aussi la fête de Saint-Pierre Claver, un autre jésuite, qui a été l'apôtre par excellence des Noirs. Il a été canonisé en 1896. Il a vécu surtout au 17e siècle. Et voilà, ce Saint-Pierre Claver est vraiment quelqu'un d'absolument remarquable. Voilà pour les trois jésuites. Il est mort, Saint-Pierre Claver, le 6 septembre 1654, mais sa fête est célébrée le 9 septembre, soit demain. J'ai oublié de m'identifier, Raymond Beaugrand-Champagne au microphone. Je désire vous parler surtout de Marie aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de sa naissance. On ne sait pas au juste quand est-ce qu'elle est née, mais c'est établi au 8 septembre. Nous savons évidemment, nous chrétiens, particulièrement orthodoxes, catholiques et certains protestants, nous savons bien la place que Dieu a donnée à Marie sur le plan de la libération du monde, sur le plan du salut, comme on dit. C'est la libération, le salut. Salut, ça veut dire bien de sauver. Hein? Imaginez que vous êtes en train de vous noyer et qu'on vous envoie un billot de bois, une bouée de sauvetage, et vous êtes sauvé. Et souvent, nous sommes en train de nous noyer en nous-mêmes, dans notre égoïsme, mais Marie peut nous arracher, car elle est le miroir merveilleux de la beauté de Dieu. Et nous croyons que son action se poursuit dans l'Église. Et la fête de son anniversaire, de sa nativité, comme on dit, la nativité, c'est une source de joie, ça devrait l'être en tous les cas pour chacun d'entre nous, mais c'est ignoré, c'est dommage. L'Ancien Testament parle de Marie, oui, parle de Marie sous forme de prophétie, et même de son destin exceptionnel, dans le livre de la Genèse déjà. On voit bien qu'un sauveur, un libérateur, quoi, est annoncé. Et il est fait allusion à la mère de ce sauveur. Elle lui écrasera la tête au démon, c'est ça qu'il est dit, à l'ennemi. Des siècles plus tard, le grand et merveilleux prophète Isaïe, en surplombant l'histoire de son temps, parle de la Vierge qui mettra un enfant royal au monde. C'est bien ce qu'il dit, une Vierge qui mettra un enfant royal au monde. Ça date de nombreux siècles avant la naissance de Marie, ça, évidemment. Un autre prophète, Michée, dit que viendra le jour où, à Bethléem, celle qui doit enfanter enfantera. C'est le texte, d'ailleurs, qui est autrefois de la première lecture dans le jour de cette fête. On a enlevé ça pour remplacer ça par une lecture de saint Paul, apôtre aux Romains, où il est dit, frères et sœurs, nous le savons, quand les hommes et les femmes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères et de sœurs. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Et sa gloire, il l'a particulièrement donnée à Marie. On le sait d'ailleurs par les récits apocryphes, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans les évangiles au sujet de la naissance de Marie. Ce sont des sources qu'on appelle extra-bibliques. Elles sont en dehors de la Bible. Elles sont intéressantes. Je vous en ai déjà parlé des textes apocryphes. Hein. J'ai tout ça chez moi. C'est assez intéressant. C'est souvent, on voit bien que c'est légendaire. Mais il y a des vérités contenues à l'intérieur de ça. Alors, à l'intérieur de ces traditions, c'est comme ça qu'on apprend que ses parents s'appelaient Anne et Joachim. C'est pas dans la Bible, Anne et Joachim. Ils sont fêtés ensemble le 26 juillet, et je vous en ai parlé assez longuement. Alors, on dit qu'ils étaient justes, fidèles, observateurs de la loi juive, mais que Anne était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et dans le peuple juif, dans le peuple d'Israël, c'était un immense malheur, hein? Je ne sais pas si on considère ça encore aujourd'hui comme un immense malheur. J'espère que oui, car rien n'est plus merveilleux, hein, que la naissance d'un enfant. Et alors il priait beaucoup, et un jour un ange, raconte ces vieux textes, annonça l'avenue d'une fille promise à un destin absolument exceptionnel. Et ce cas s'est produit, n'est-ce pas, pour d'autres femmes dans l'histoire sainte et même dans l'histoire de l'Église. Et c'est un sens symbolique. Ça signifie que Dieu est intervenu. Écoutez bien ça, parce que je vais vous parler tout à l'heure d'un grand, grand, grand miracle. Alors, ça signifie que Dieu est intervenu directement dans le processus de la génération. Et donc, que quelque chose de surnaturel sera lié au destin de cet enfant né de façon exceptionnelle. Et cela sera évidemment très, très vrai de cette petite juive, cette petite fille, que ses parents ont appelée Marie. Saint Matthieu, dans son évangile, présente la généalogie du Christ, et c'est une longue liste. C'est un symbole de l'humanité entière, ça fait penser aussi à des maillons d'une chaîne, et ces maillons plus ou moins brillants, plus ou moins ternes, plus ou moins rouillés, ça évoque la captivité, une chaîne, hein. Et au bout de la chaîne, ben quoi, il y a la liberté, Jésus-Christ. Ou bien encore, c'est comme une espèce de plante, si on veut, qui est montée lentement, avec beaucoup de difficultés. Puis l'aboutissement de cette plante, bien quoi, c'est le fruit mûr de l'humanité qui est le Christ. On peut dire que Marie en est la fleur. La fête de la nativité de la Vierge, c'est très ancien, ça. Ça a d'abord été célébré en Orient. En Orient, quand je parle de l'Orient, je ne veux pas dire la Chine. L'Orient, je le dis pour les quelques rares personnes qui se tromperaient, là. L'Orient, c'est l'Orient, le Proche-Orient, c'est-à-dire les pays, disons, comme le Liban, la Palestine, et puis l'Orient de l'Europe, eh bien, c'est les pays que l'on considérait autrefois derrière le rideau de fer. Et elle est attestée à Rome au 7e siècle. C'est également en ces jours qu'elle est célébrée, d'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, qui est en grande partie une église dite orientale, dont le siège principal, je vous le rappelle, est en Turquie depuis très, très, très longtemps. Ça s'appelait Constantinople autrefois et maintenant Istanbul. Et alors, je vous ai dit que je vous parlerai d'un grand miracle. Oui, je vais vous parler de ce grand miracle que j'ai abordé légèrement avant-hier. C'est ce miracle qui est arrivé au début du siècle à Marie Bailly, B-A-I, 2-L-Y. Elle avait 22 ans. Et le miracle a été observé par nul autre qu'un prix Nobel. Donc, c'est pas n'importe qui. Il s'est opéré sous le regard et sous les doigts, sous les mains d'Alexis Carrel. Je n'exagère absolument rien. Les gens qui disent « Ah, oh, ça n'a pas de sens », vous verrez. D'ailleurs, je vous parlerai longuement d'Alexis Carrel le 4 novembre, puisqu'il est mort le 4 novembre 1944. Mais il est vrai que le 4 novembre, c'est un samedi. Je vous en parlerai donc le 3 novembre, juste après la Toussaint, et le jour où on commémore les morts. Donc, depuis le jour merveilleux du 11 février 1858, où la Vierge Marie est apparue pour la première fois à cette petite bergère de rien du tout qui s'appelait Bernadette Soubirous, d'un milieu le plus pauvre de Lourdes, tellement pauvre que le curé, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui, Monseigneur Peyramale, qui est mort en 1877. Monseigneur Peyramale méprisait le premier jour cette petite fille de rien du tout qui venait lui raconter des sornettes, croyait-il. Eh bien, depuis ce 11 février 1858, il y a eu de nombreuses guérisons miraculeuses. Ça a fait de la grotte de Lourdes. C'est dans les Pyrénées, Lourdes. C'est au sud de la France, pas tellement loin de l'Espagne. C'est le lieu de pèlerinage le plus fréquenté du monde chrétien. Imaginez qu'il y a, je me souviens moi quand j'y suis allé il y a de nombreuses années, il y avait 7 millions de personnes par année. C'est incroyable. Il faut voir la gare de Lourdes. La gare de Lourdes, il y a tellement de voies ferrées qu'on se demande comment une petite ville comme ça puisse avoir une gare aussi immense et les trains arrivent de partout. Vous savez qu'il y a des trains qui partent d'Angleterre, qui traversent sur des bateaux et parcourent ensuite la France pour transporter tous ces malades. des grabataires, des gens fauteuils roulants, des gens presque mourants. On les transporte d'Allemagne, de partout. Il en vient, les trains arrivent constamment, les autocars, les voitures. C'est inimaginable. Et alors donc, parmi les miracles qui en font vraiment l'un des lieux les plus étranges par sa nature et les conditions scientifiques absolument particulières dans lesquelles il a été contrôlé, c'est celui de Marie Bailly. Toute la société à l'époque, au début du siècle, a été ébranlée par ce miracle fantastique. La guérison spontanée, je dis bien spontanée, de Marie Bailly, 22 ans, est arrivée au dernier stade d'une péritonite tuberculeuse. Elle était mourante, on croyait qu'elle allait mourir quelques minutes plus tard. Au cours des années suivantes, cet événement scientifique et religieux de première grandeur a subi malheureusement les effets de ce qu'on appelle l'usure du temps. On dirait que ça disparaît de la mémoire des gens aujourd'hui en cette fin du XXe siècle. Pourtant, beaucoup de gens sont restés très attachés à Notre-Dame de Lourdes, mais ignorent ce miracle que je vais vous raconter. C'est pour ça que je vais vous ranimer le souvenir de ce miracle en ce jour anniversaire de la Sainte Vierge. Car, de nos jours, la foi a besoin d'être soutenue. Elle est attaquée de tous côtés partout, et j'aimerais bien que vous écoutiez ce que je vais vous raconter très attentivement. Le 26 mai 1902, au matin, un train d'espoir, le dernier espoir de guérison et d'amélioration pour une foule de malades et d'infirmes part de la ville de Lyon, dans le sud de la France, mais c'est le sud-est. Lourdes est au sud-ouest. Alors ils vont traverser la France pour se rendre à Lourdes. C'est le pèlerinage du diocèse de Lyon. Pèlerinage diocésain annuel qui est conduit par le vicaire général de Lyon. Il y a un jeune médecin là, qui remplace celui qui devait accompagner le convoi. Il est appelé auprès d'une grande malade qui souffre pour lui faire une piqûre de morphine. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un futur prix Nobel. Au premier arrêt du train, car le train prenait beaucoup plus de temps à l'époque pour traverser la France qu'aujourd'hui. On n'avait pas les trains rapides d'aujourd'hui. Et au premier arrêt, le médecin saisit sa trousse d'urgence et change de compartiment pour se rendre auprès de cette malade. Et là, dans un wagon de troisième classe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un wagon pauvre. Car en France, à l'époque, ben encore aujourd'hui, il y a une première classe, il y a une deuxième classe, mais là, il y avait une troisième classe. Alors, si les wagons étaient beaucoup moins confortables, ça nous semble curieux à nous aujourd'hui, mais c'était comme ça dans ce temps-là. Dans nos avions, il y a bien une classe supérieure à la classe touriste. On n'appelle plus ça première et deuxième classe. On change les noms, mais ça revient au même. On est encore très peu égalitaire. Et là, dans un wagon de troisième classe, comme je vous dis, il a trouvé étendu sur un matelas posé entre deux banquettes une jeune fille de 22 ans, cette Marie Bailly, la face crispée par la douleur, les lèvres mauves sur un teint livide. Elle était atteinte d'une péritonite tuberculeuse jugée inopérable en raison de son état général. Elle se s'est perdue, mais elle a voulu à tout prix faire le voyage. Et le jeune médecin, lui, vient d'être reçu 2 ans plus tôt à son doctorat avec mention « très bien ». Ce qui était remarquable, hein, « très bien ». C'est pas tout le monde qui l'avait. Et déjà, il se fait connaître dans le milieu médical de Lyon par les débuts d'une œuvre prometteuse, là. Il avait travaillé sur les anastomoses vasculaires et les transplantations d'organes. Il s'appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alexis Carrel. Très connu par la plupart des gens, c'est lui l'auteur de ce livre admirable et discutable qui s'appelle « L'homme s'est inconnu », qui a publié quantité de volumes remarquables. Et il a aussi publié un livre sur la prière. Je vous donne quelques-uns des livres qu'il a publiés. « Réflexion sur la conduite de la vie », je l'ai depuis... Ça fait 45 ans que j'ai ça dans ma bibliothèque, j'avais acheté lorsqu'il était publié au 40e mille, en 1950, chez Plon. J'avais acheté aussi, quand j'étais adolescent, la prière. J'ai acheté ça en 1944. C'était le 120e mille exemplaire. Et puis, le voyage de Lourdes, aussi, chez Plon encore. Et toujours chez Plon, l'homme s'est inconnu, que j'avais acheté aussi durant la guerre, avant d'entrer au monastère, L'homme s'est inconnu, publié à Montréal d'ailleurs à l'époque. Et alors ce sont les ouvrages qui se sont répandus dans le monde, ça a été traduit en une vingtaine de langues. Donc, ce jeune chercheur est animé par une curiosité intense, et c'est un trait de sa nature. Pour lui, cette curiosité, ben, c'est plus qu'une qualité, c'est une vertu. Car c'est elle qui transforme le chercheur en quoi? En trouveur. Il veut trouver. Il trouvera aussi. Depuis que l'on parle des miracles de Lourdes, il y avait un terrible débat qui s'était engagé au 19e siècle entre la foi, puis entre les gens qui attaquaient la foi chrétienne, la foi catholique particulièrement. Et notre savant, lui, Alexis Carrel, c'est un agnostique. Il le proclame, et il n'y a pas honte de ça. Il y a bien raison de ne pas avoir honte. Pourquoi avoir honte quand on est sincère? Il a lu sur le sujet de Lourdes des ouvrages, des croyants et des gens qui attaquent Lourdes. Il a lu un croyant comme Boissary, d'Asserre, mais il a lu aussi Zola, Taine, Renan. Et puis, même les écrits de quelqu'un qui était très sectaire, c'est Berthelot. Tout cela l'a beaucoup intrigué, il a supposé les avis des uns et des autres. Il n'a rien trouvé qui pouvait le convaincre, ni dans un sens ni dans l'autre, si bien que sa curiosité de jeune savant n'est pas satisfaite. Et alors, ayant confiance qu'en lui-même, ce qui est tout à fait légitime, il est tenté d'aller se rendre compte par lui-même, car il y a là-dessous des faits réels qu'il ne comprend pas. Or, un fait que l'on ne comprend pas, un fait inexpliqué, c'est une chose insupportable à l'esprit d'un vrai savant, surtout lorsqu'on est encore jeune, il est jeune. Il n'avait que 2 ans de médecine. C'est comme un défi pour lui, un outrage à la science. On comprend donc que la proposition d'un de ses amis qui l'avait invité soit venue juste à point. Il a sauté dessus. Et ces chemins de fer du début du siècle roulaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, très lentement. Mais surtout, c'était chaotique, ça faisait des arrêts fréquents. Et là, la malade, elle, la pauvre Marie Bailly, ben là, on était très éprouvée. Car elle lui fait une piqûre, et dès que la morphine commence à agir, entre une plainte et un soupir, Marie Bailly murmure doucement, « Je souffre beaucoup, mais je suis bien contente d'être venue. » Les sœurs voulaient m'en empêcher. Et l'abbé qui l'accompagne ajoute en confidence, « Ben, elle est si faible que je crains un malheur. » Et Carrel lui dit, « Je reviendrai cette nuit. » En effet, vers les 3 heures du matin, le moment dépressif le plus dur pour ceux qui souffrent, mais l'infirmière qui s'appelait Gabrielle Guarin, qui veille la malade en permanence, elle est effrayée par une syncope, et elle vient appeler le médecin, et car elle trouve Marie Bailly à moitié habillée, la face verdâtre, puis elle émerge à peine de sa syncope, elle murmure dans un souffle, oh, « Jamais je ne pourrai arriver à Lourdes. » Et à chaque mouvement du train, sa figure se crispe, car elle fait une morphine. Il examine le ventre pour y appliquer du laudanum, et la peau est luisante jusqu'à la naissance des côtes qui sortent par la peau. L'abdomen semble distendu par des masses solides, puis il y a une poche liquide qui occupe la région du nombril, et la température est supérieure à la normale. Les jambes sont enflées, Le cœur est rapide ainsi que le rythme de la respiration, et c'est bien l'aspect typique de la péritonite tuberculeuse. Et là, la malade en est au stade ultime de son évolution. Je suis en train de vous raconter, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, un miracle extraordinaire qui s'est revenu au début du siècle. Nous sommes donc à bord d'un train qui se rend à Lourdes, qui est parti de Lyon. Nous sommes en compagnie de Marie Bailly, qui est en train de mourir. Et alors, pour compléter le dossier médical qui accompagne la malade, l'infirmière raconte la dramatique histoire. Marie Bailly avait perdu ses parents depuis quelques années. Son père crachait le sang. Mais sa mère a été emportée par une bronchite chronique. Et toute sa jeunesse, Marie a été malade. À 17 ans, elle crachait le sang elle-même. Et à 18 ans, elle a eu une pleurésie. Et on lui a retiré, du côté gauche, 2,5 litres de liquide. C'est énorme. Elle en fut un peu soulagée, puis son ventre s'est remis à gonfler. Et on a dû l'hospitaliser. Le médecin a posé le diagnostic de péritonite tuberculeuse, confirmé par le célèbre chirurgien de Bordeaux, le docteur Bromillou. Je vous donne les noms pour vous montrer que c'est, si on lit tout le document qui est très très long, on voit que tous les détails sont très 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 précis. Rien n'est inventé. Et quelques mois plus tard, donc, Marie Bailly est revenue à Saint-Joseph pour y être opérée. Mais le chirurgien refusa d'intervenir à cause de la gravité de son état général. Et alors, on a prévenu sa sœur qu'elle était perdue. Qui avait été injectée par le docteur Alexis Carrel à Marie Bailly, me faisait son effet. Et Marie semble soulagée. Là, la tête un peu soulevée, elle respire. Ce n'est que de la morphine, c'est pas un médicament. Ses paupières mauves s'abaissent. Elle paraît dormir. C'est tout. Elle n'est pas guérie. Le train arrive enfin à Lourdes au matin du 27 mai 1902. Marie Bailly est transportée à l'hôpital Notre-Dame des Sept Douleurs, à Lourdes. Alexis Carrel va la voir aussitôt. Il est accompagné d'un de ses camarades de collège, Albert Blanc, qui est lui aussi du voyage, mais comme brancardier bénévole. C'est eux qui transportent bénévolement des malades. Il y en a beaucoup et c'est admirable de voir ça. Hein. C'est fantastique. Il faut voir à Lourdes tout le dévouement des bénévoles. L'infirmière attendait la visite avec impatience, la visite du docteur, car l'état de la malade venait encore de s'aggraver. Et là, un nouvel examen. Marie Bailly parle à peine. Elle est inerte. Sa figure est révulsée. Et là, la respiration est rapide et pénible. Le pouls bat, écoutez bien ça, à 150, avec des intermittences. Elle est en train de mourir, quoi. Le cœur va lâcher. La tuméfaction du ventre est presque uniforme, un peu plus volumineuse à gauche. La paroi est toujours distendue, là. C'est la peau du ventre est toute distendue, comme si elle allait éclater, par des masses solides et rempli du liquide déjà observé au premier examen. Les jambes sont enflées jusqu'aux genoux. Depuis le matin, le nez et les mains sont refroidis, les oreilles et les ongles sont couverts d'une teinte olivâtre. Tout confirme à nouveau le diagnostic classique de péritonite tuberculeuse à son stade ultime de ce qu'on appelle la cachexie. Un autre médecin, le docteur Geoffroy, est présent dans la salle. Il examine à son tour la malade et répond tout bas, « C'est l'agonie. Elle peut mourir devant la grotte. » Et ainsi, contre toute vie, avec la certitude d'une fin imminente, on transporte Marie Bailly à la grotte pour une ultime satisfaction, la pauvre femme le veut. La respiration est courte. Il n'y a pas moyen de prendre son pouls. La malade est sans connaissance. La figure est heureuse. 2 heures de l'après-midi sonnent à l'horloge de la basilique. Les malades, transportés sur les civières, arrivent en foule, escortés d'une nuée de pèlerins. Vous savez, c'est pas une foule surexcitée. Hein? C'est étonnant, à Lourdes, à l'intérieur des grilles, c'est une foule nombreuse, ni respectueuse, et au passage de Marie Bailly, Alexis Carrel glisse à l'oreille de son camarade de Lyon, M. Leblanc. Si celle-ci guérit, je me fais moine. Écoutez bien ça, si celle-ci guérit, je me fais moine. Et voici qu'au moment précis où notre savant Alexis Carrel a lancé son défi, qu'est-ce qui arrive? Quelque chose se passe, non point chez la malade, mais chez le médecin. Ça commence chez lui. Comme une sorte de bouleversement des structures les plus intimes de sa pensée. Alors là, ses convictions inébranlables de rationaliste athée ou agnostique, imbu des dogmes positivistes, là, les dogmes de la science, les vérités inébranlables, prétend-on, de la science, ça commence à éclater en lui. En effet, le jeune savant agnostique sent subitement monter en lui une prière. Il n'avait jamais senti ça de sa vie. Il nous l'a raconté, sa prière. Elle est étonnante. Voilà les termes de sa belle prière. Et c'est la prière d'un athée, d'un agnostique. Et ça peut être notre prière car nous sommes tous un peu athées et agnostiques malgré nous. Si on avait vraiment la foi, on ne serait pas ce que nous sommes. Enfin, sauf les saints parmi nous. Ils ne sont pas très nombreux. Et voici la prière. Ah, comme je voudrais, comme tous les malheureux, croire que vous n'êtes pas seulement une fontaine exquise créée par nos cerveaux. Ô Vierge Marie, guérissez donc cette jeune fille. Elle a trop souffert. Permettez-lui de vivre un peu. Et faites-moi croire. Curieuse prière, donc, pour un agnostique, une prière, et même du genre le plus relevé, je dirais. Et agnostique, il l'est toujours. S'il demande à croire, c'est qu'il est agnostique. C'est la preuve qu'il ne croit pas. La preuve est faite. Et cette prière paradoxale, c'est un appel. C'est la fusée de détresse qu'un agnostique lance vers le ciel pour attirer un secours immédiat. Hein. Il y a tant d'intensité dans son élan profond, c'en est à se demander si le phénomène de guérison, le phénomène miracle, ne serait pas finalement la réponse à son appel, l'appel d'un agnostique qui prie et qui est exaucé, à moins que ça ait le caractère d'une riposte, une espèce de riposte du bon Dieu au défi du savant, hein, d'une leçon claire que Dieu lui envoie. Une leçon claire qui est infligée à la science elle-même. Et alors, ceci amène à se demander si dans le cheminement qui est très mystérieux, là, des forces qui agissent dans le processus du miracle, eh bien, Alexis Carrel lui-même n'aurait pas eu un rôle inconscient, finalement. Alors, les choses en sont à ce stade de la réflexion quand la petite voiture de Marie Bailly apparaît, poussée par son brancardier, Albert Blanc, vers la source miraculeuse. Et Carrel, la source d'eau, hein, il y a de l'eau qui coule miraculeusement, au début, au point de départ, à tout le moins, au milieu du 19e siècle, à Lourdes. Et alors donc, Carrel la suit des yeux. L'état de la malade ne s'est pas modifié, même figure blême, sur ce corps menu. Le ventre gonfle la couverture. Devant la source d'eau, il y a des dames, des infirmières, là, qui veulent pas la baigner. La baigner, c'est qu'il y a des espèces de piscines glacées, là. Puis on voit, quand on est à Lourdes, il y a plusieurs piscines comme ça, puis il y a des gens de chaque côté, ils se mettent à quatre, deux d'un bord, deux de l'autre, là. Puis ils glissent les malades dans l'eau glacée. C'est terrible à voir. Mais on les recouvre d'un drap, n'est-ce pas, par discrétion, c'est évident. Et on les entoure, on les essuie. Jamais personne n'est mort à ce moment-là. Personne. C'est assez étonnant, hein? En un siècle et demi. Alors, ils trouvent que la malade, dans cet état, ça n'a pas de sens de la baigner. Elles lui font seulement quelques ablutions sur le ventre. Et la font ramener devant la grotte. Ils trouvent que c'est suffisant. Alors, Carrel traverse les rangs des petites voitures. Il est près de 2h30 de l'après-midi. Bon, ça fait à peine quelques instants que c'est arrivé. Il y rejoint Marie Bailly. Au moment où son regard se pose sur le visage de la malade, il lui semble que son aspect s'est modifié. Les reflets blêmes ont disparu. La peau est moins pâle. Alors il se dit, je suis halluciné. Je suis en train de perdre la tête. Il est rationaliste. Puis il dit, c'est un phénomène intéressant. Oh, il faudrait peut-être noter, dit-il. Il veut pas croire, hein. Alors il sort son stylo, il note sur sa manchette l'heure exacte de son observation, 2h40. Au docteur Geoffroy, là, toujours auprès de lui, il dit, regardez, on dirait que son état s'améliore. Une réponse évasive de l'autre, car elle tâte le pouls. La respiration est ralentie. Aussi, il me semble qu'elle va mourir, objecte son confrère. Et Carrel ne répond pas. Il observe. Il a sous les yeux les signes d'une amélioration évidente de l'état général et méprisant son émotion, il concentre son attention sur sa malade. La figure de Marie Bailly est soutenue par son infirmière. Et la figure se modifie toujours. Ses yeux brillants, extasiés vers la grotte. Et tout à coup, Carrel se sent pâlir. Il voit, au niveau de la ceinture, la couverture qui recouvre le ventre s'abaisse d'elle-même. Alors, stupéfait, il appelle son confrère, le docteur Geoffroy. « Oui, dit celui-ci, il semble qu'il y ait une diminution. » C'est sans doute la couverture. Alors, Carrel glisse ses mains sous la couverture. Et le ventre, écoutez bien ça, le ventre se déprime sous ses doigts. À cet instant, 3 heures sonnent à la basilique. En quelques minutes, la tuméfaction énorme du ventre semble avoir complètement disparu. Il s'écrie doucement, « Je crois vraiment que je deviens fou. » Alors il observe la respiration de sa malade. Le cœur est rapide mais régulier. « Comment vous sentez-vous ?» lui demande-t-il. « Oh, je suis très bien, pas très forte, mais je sens que je suis guérie, » dit-elle tout bas. L'événement jette Carrel dans un trouble profond. En un moment où son système de pensée bascule, il est incapable de réfléchir. Comme s'il pénétrait dans un domaine inconnu, il se trouve placé au point où le ciel et la terre se rencontrent, notre monde et l'au-delà se rencontrent, le spirituel et le temporel se rencontrent. C'est le point d'inversion de la logique rationnelle et de la foi. Un lieu élevé où ceux qui n'ont pas l'habitude d'y vivre ont le vertige lorsqu'ils s'y trouvent transportés par accident. Ceux qui trouvent la foi ont l'impression de tomber à la renverse. Et l'infirmière, là, apporte une tasse de lait. Marie Bailly boit lentement, puis elle soulève sa tête. Elle regarde autour d'elle. Elle remue un peu. Elle se met sur le côté. Alors Alexis Carrel est abasourdi, il se redresse, il s'en va, il traverse les rangs des pèlerins. Il ignore encore l'état des lésions. Mais l'amélioration de toutes les fonctions s'est produite sous ses yeux, sous ses doigts. Alors, ce qui arrive est bien simple, c'est dans la logique du miracle. C'est ce que la science, qui ne veut rien laisser au monde religieux, ne laisse même pas le privilège du latin. Parce que la science appelle ça une restitutio ad integrum, c'est-à-dire un retour à ce qui était intégral, à l'intégrité. Alors la sanction d'un succès qu'elle obtient parfois, mais jamais dans un cas situé hors de toute ressource thérapeutique, hein, comme celui dont je vous parle. Parce que les guérisons scientifiques ne sont jamais subites et aussi fantastiques que celles-là. Jamais, jamais, jamais. Alors, ramenée à l'hôpital, Marie Bailly est dans une salle que l'on appelle l'Immaculée Conception. Et là, le docteur Carrel est cloué sur la porte. Il regarde, muet. Et au seul coup d'œil, la transformation est prodigieuse. Marie Bailly est assise sur son lit. Ses yeux brillent dans sa figure encore grise et décharnée. Mais sa figure est mobile, elle est vivante, avec un peu de rose même aux joues. La commissure des lèvres garde un pli douloureux, évidemment, elle a tellement souffert pendant tellement d'années. Mais de toute sa personne sort comme un sentiment indéfinissable de calme qui rayonne autour d'elle. « Monsieur le docteur, je suis complètement guéri, » dit Marie. « Je me sens très faible. » mais il me semble que si je voulais, je pourrais marcher. » Alors Karel saisit le poignet. Sous les doigts, l'artère bat de façon régulière. 80 pulsations et non plus 150. Et la respiration est devenue normale. La poitrine se soulève lentement et régulièrement. Alors, Alexis Karel, le rationaliste agnostique, veut, par fidélité à sa science, sa sainte science, il veut s'accrocher à ses derniers doutes. Hein. L'amélioration fonctionnelle est évidente, mais les lésions organiques, elles, est-ce qu'elles ont disparu? Alors, il veut savoir. Alors, il rejette la couverture. Il regarde. La peau apparaît blanche et lisse. Au-dessus des hanches étroites, il voit le petit ventre plat et déprimé, comme chez une jeune fille de 20 ans, elle a 22 ans, mais très amaigrie. Alors, comme le saint Thomas, là, vous savez, le saint Thomas, l'apôtre, qui voulait pas croire et qui a mis ses doigts dans les plaies de Jésus, bien, il fait de même. Il applique ses mains sur la paroi de l'abdomen. Elle est extrêmement mince. La paroi, elle est souple et dépressive. Et là, les doigts palpent sans provoquer la moindre douleur. Il explore le ventre en tous sens. Seules les jambes restent enflées légèrement. Tout le reste est normal. La jeune fille est seulement amaigrie et faible. Et ça, c'est le moment choisi par son camarade moqueur qui a suivi l'examen pour glisser à Karel d'un air bien malicieux. « Alors, mon cher Alexis, tu vas te faire moine ?» Alors, il est abasourdi, Karel. Il est en proie à ses réflexions. Il n'entend même pas cette allusion moqueuse de son ami. Et deux autres confrères viennent dans la salle, un Français, jeune interne de Bordeaux, et un Italien. Et à leur tour, ils examinent Marie Bailly. Leurs conclusions sont formelles, c'est la guérison. Marie Bailly est rayonnante d'une joie sereine qui se communique à tous et envahit la salle. Qu'allez-vous faire à présent? Que vous êtes certaine du miracle de votre guérison? Lui demande Alexis Karel. Et elle répond simplement, j'irai chez les religieuses de Saint-Vincent de Paul. Je serai reçue, j'en doute pas, par ces chères sœurs et je soignerai les malades. Alors Alexis Karel sort de la salle. Pour qu'on ne voit pas son émotion, il s'en va sur les bords du Gave, c'est la petite rivière, le petit fleuve, pour tenter de retrouver sa pensée, qui ne lui obéit plus. Une fille mourante à 2 heures et bien portante à 7 heures du soir, là c'est trop. Hein. Que peut lui dire sa science là-dessus? Et sa pensée va bien plus loin encore, quelle est la cause du miracle? J'observe des phénomènes et je ne remonte pas à la cause, dit-il. Alors, c'est une situation insupportable pour un esprit scientifique. Le miracle se révèle comme l'une des lois de la création. Mais c'est une loi inconnue par les incroyants. Les causes sont hors de leur portée. Elles sont hors aussi de notre portée à nous qui croyons. Les causes se situent de l'autre côté de la barrière qui nous sépare de l'invisible. Et que des forces mystérieuses puissent franchir parfois, quand il leur plaît, à notre insu, ces barrières, ou peut-être à notre appel, sur un ordre de l'invisible, tout cela nous permet de tomber à genoux. Et les suites immédiates sont la démonstration éclatante du miracle. Alors avant de quitter Lourdes, évitant la foule qui déborde d'enthousiasme à la nouvelle de l'événement, Marie Bailly revient à la piscine et là, elle s'y plonge dans l'eau glacée. Puis c'est le retour du pèlerinage et 24 heures de train sans la moindre fatigue. Ça ne l'épuise plus du tout, les forces lui sont revenues. À l'arrivée à Lyon, Marie, écoutez bien ça, traverse sans aide le hall de la gare. Elle prend le tramway et elle va se jeter en pleurs dans les bras de sa sœur qui peut pas la reconnaître, n'en revient pas. Et le lendemain, son arrivée à pied, oui, à l'hôtel de Sainte-Foy, sème chez les religieuses la même stupéfaction que s'ils apercevaient Lazare qui sortait du tombeau. Vous vous souvenez dans l'Évangile, Jésus qui ressuscite Lazare. Et alors, la voilà bien la preuve du miracle. La guérison est complète. Un an plus tard, le docteur Boissary vient constater sur place auprès de sœur Marie Bailly, car elle est entrée chez les filles de la Charité le 28 août 1902, quelques jours après ce miracle, conformément à son vœu le plus cher, il vient consacrer la guérison totale. Absolument miraculeuse. Et là, le docteur Carrel, lui, ne se fera pas moine. Sans rien sacrifier sa brillante carrière scientifique qui lui vaudra à l'âge de 39 ans le prix Nobel de médecine et de physiologie, il vit son agnosticisme préfictif croulé sous les coups de l'évidence surnaturelle dont il avait été le témoin privilégié, et là il a retrouvé la foi. Une foi qui, peu à peu, s'est transformée en certitude. Une foi qu'il avait lui-même demandé, hein, dans sa prière que je vous ai citée tout à l'heure. Une foi dans laquelle le souvenir de Marie Bailly constituait son guide sur la route du ciel. Hein. Quel homme que ce Alexis Carrel, qui, dans son livre sur la prière, écrit à la fin, c'est un tout petit livre, ça n'a qu'une trentaine de pages. Pour quelle raison le sens du sacré joue-t-il un rôle aussi important dans la réussite de la vie? Par quel mécanisme la prière agit-elle sur nous? Ici, nous quittons le domaine de l'observation pour celui de l'hypothèse, mais l'hypothèse, même hasardeuse, est nécessaire au progrès de la connaissance. Il faut nous rappeler d'abord que l'homme est un tout indivisible, composé de tissus, de liquides organiques, et de conscience. Il n'est donc pas compris entièrement dans les quatre dimensions de l'espace et du temps, car la conscience, si elle réside dans nos organes, se prolonge en même temps. Hors du continuum physique, nous avons une conscience, et celle-là qui a animé Frédéric Ozanam, dont je souhaite vous parler longtemps, mais je n'aurai pas le temps. Il a fondé avec sept étudiants la Société Saint-Vincent de Paul au début du siècle dernier. Il est docteur en droit. Il s'était établi à Lyon. C'était un avocat, était professeur de droit commercial. Et il a tant fait pour les pauvres avec un tel amour, un tel désir, que son œuvre s'est répandue à travers le monde de façon absolument phénoménale. C'est phénoménal. Et c'était animé d'un esprit absolument admirable. Et il disait d'ailleurs, les sociétés philanthropiques n'ont point ces éléments de force et de durée parce qu'elles ne se fondent que sur des intérêts purement humains. Les sociétés philanthropiques, c'est des sociétés similaires à la Société Saint-Vincent de Paul, mais qui ne sont pas animées par Dieu. Il ajoute, on y voit répandre l'argent, mais on n'y sent pas battre le cœur. Cette charité qui mêle ses larmes aux larmes des malheureux, qu'elle ne peut consoler autrement, qui caresse et recueille l'enfant nu et abandonné, qui porte les conseils de l'amitié à la jeunesse timide, qui s'assied avec bienveillance au chevet du malade, qui écoute, sans donner signe d'ennui, les longs et lamentables récits de l'infortune, cette charité, ô mes amis, ne peut être inspirée que par Dieu. Et c'est ça la charité de la Société Saint-Vincent de Paul, la vraie charité. Et d'ailleurs, il écrivait en 1836 à un ami, Louis Jean Mau, « Ne ferons-nous rien pour ressembler à ces saints que nous aimons? Et nous contenterons-nous de gémir sur la stérilité de la saison présente, tandis que chacun de nous porte dans le cœur un germe de sainteté que le simple vouloir suffirait à faire éclore. Si nous ne savons pas aimer Dieu comme ceux-là, comme les saints l'aimaient, sans doute ce nous doit être un sujet de reproche, mais encore, notre faiblesse peut y trouver quelque ombre d'excuse, car il semble qu'il faille voir pour aimer. Et nous ne voyons Dieu que des yeux de la foi. Et notre foi est si faible, on était conscient de sa faible foi, et pourtant, c'était un saint à mon avis. Je vous recommande d'ailleurs un livre publié ici chez Bellarmé il y a plusieurs années, par Madeleine Desrivières, Ça a été publié, si je me souviens bien, en 1984, oui, en 84, chez Bellarmine. Avec quelques illustrations, Madeleine des Rivières et de Québec, c'est un très beau livre. Il y a aussi sur Frédéric, c'est intitulé Ozanam, un savant chez les pauvres. Il y a aussi Frédéric Ozanam ou La foi opérant, publié au même moment chez Tiki, par Yvan Gobry. Très, très, très beau livre, magnifique à lire et qui se transporte facilement en métro, c'est un petit format. Et enfin, je ne saurais trop vous recommander de prier aujourd'hui Marie et de réciter avec joie à la demande de Charles Péguy, dont on a célébré cette semaine l'anniversaire du décès, lorsqu'il a reçu cette balle en plein front au début de la guerre, 1914. Voici ce texte de Charles Péguy. Je vous le lis, espérant qu'il vous invitera à réciter aujourd'hui avec ferveur votre chapelet. Charles Péguy, qui était un anarchiste et un révolutionnaire, comme Frédéric Ozanam, était un très grand homme. Alexis Garel aussi. Il y a des croyants merveilleux. Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te soucie pas de ce que racontent tels écervelés, que c'est une dévotion passée et qu'on va abandonner. Cette prière-là, je te le dis, est un rayon de l'Évangile. On ne me le changera pas. Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est qu'il est simple et qu'il est humble. Comme fut mon fils, comme fut sa mère. Récite ton chapelet, tu trouveras à tes côtés toute la compagnie rassemblée en Évangile, la pauvre veuve qui n'a pas fait d'études, et le publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme, la pécheresse effrayée qu'on voudrait accabler, et tous les éclopés que leur foi a sauvés, et les bons vieux bergers comme ceux de Bethléem qui découvrirent mon fils et sa mère. Récite ton chapelet, dit Dieu. Il faut que votre prière tourne, tourne et retourne, comme font entre vos doigts les grains du chapelet. Alors quand je voudrai, je vous l'assure, vous recevrez la bonne nourriture qui affermit le cœur et rassure l'âme. Allons, dit Dieu. Récitez votre chapelet et gardez l'esprit en paix.